France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et ce midi, focus sur un aliment phare de la culture culinaire japonaise qui ne cesse de faire des émules en France. C'est une boisson alcoolisée et fermentée à base de riz, de champignons, koji, et d'eau de source. En japonais, on l'appelle nihonshu. En français, il est plus communément appelé saké. Et sa fabrication ancestrale a été classée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO le 4 décembre 2024, faisant la joie et la fierté au pays du soleil levant.
Kampai, santé en japonais. Dans les bars à saké du centre-ville, la décision de l'UNESCO met tout le monde en joie.
Cette consécration internationale, c'est une si belle reconnaissance pour nos petits producteurs. Ça va les motiver comme jamais.
Le monde entier va découvrir nos si bons produits du terroir. C'est vraiment super.
Je viens de Kochi, une région réputée pour son saké. Cela me ferait trop plaisir s'il avait du succès à l'étranger. En tout cas, je ne m'en prive pas.
Moi, je suis originaire d'Okinawa, l'archipel tropical situé à 2000 km d'ici. Quand j'ai le mal du pays, il suffit d'une coupe de notre saké local, l'Awamori, pour avoir l'impression d'être de retour là-bas.
Il n'y a pas un saké. En fait, il y en a des dizaines. Chacun a sa particularité et un goût singulier en fonction de la région dont il provient et du type de riz utilisé. Cette diversité est absolument passionnante.
Alors pourquoi le saké est-il en train de s'imposer en France? C'est la question qu'on va poser à nos deux invités qui sont deux des plus grands connaisseurs du saké en France. Adrienne Saulnier-Blache, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alias Madame Saké, du nom de votre société d'importation et de distribution de saké japonais artisanaux. Et vous êtes l'autrice avec Ryoko Sekiguchi du guide du saké en France, apprendre, déguster, acheter, où il y a tout, paru chez Keribus. Peut-être faudra-t-il le mettre à jour parce qu'il date de 2018. À vos côtés se trouve Xavier Thuisa, bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Merci d'être avec nous ce midi, vous êtes le chef sommelier de l'hôtel de Crillon à Paris, enfin du restaurant de l'hôtel de Crillon à Paris. Vous êtes meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France 2022, sacré sommelier de l'année 2024 par le guide Michelin et Saké Samouraï. Alors qu'est-ce que c'est que ça, Saké Samouraï?
C'est une reconnaissance qui est donnée par les producteurs de saké, donc l'association des producteurs de saké, et qui finalement vous donne une mission d'évangéliser le saké dans le pays d'où vous êtes d'origine, donc moi, originaire, donc moi la France. Et voilà, c'est une mission toute particulière.
Oui, carrément une mission d'évangélisation, là c'est très particulier, ça va même au-delà de l'ambassade. Hein. Justement, on parlait de la consécration, cette inscription du savoir-faire traditionnel du saké. C'est pas le saké, c'est vraiment le savoir-faire traditionnel du saké qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est vraiment une consécration, Adrienne Saulnier?
Ah oui, c'est important pour la reconnaissance mondiale de ce savoir-faire millénaire, de cette gastronomie japonaise qui est reconnue comme la plus belle, une des plus belles gastronomies du monde. Et là, c'est pas seulement le saké, mais c'est aussi le shochu, c'est toutes ces techniques de fermentation à partir de l'invisible et de quelque chose de très simple qui est le riz. Donc c'est comme la reconnaissance de nos climats de Bourgogne, reconnaître que des gens ont travaillé avant nous et ils ont parfait cette technique pour nous la transmettre jusqu'à aujourd'hui.
Ce qui est intéressant avec vous deux, outre que vous êtes des très très grands connaisseurs de saké, c'est qu'avant, peut-être en même temps, je ne sais pas, vous allez nous le dire, d'être des grands connaisseurs et amateurs de saké, vous étiez tous les deux dans le vin. Vous êtes tous les deux aussi des amateurs et des très fins connaisseurs de vin. Alors j'ai un peu envie de vous demander quand est-ce que vous avez découvert le saké, dans quelles circonstances, parce que l'un et l'autre, vous parlez d'émotion. C'est d'ailleurs la première phrase de votre guide, Adrienne Saulnier-Blache. Tout a commencé avec une émotion. Alors la parole est à vous, plutôt Xavier Thuisa, puisque j'ai déjà entendu Adrienne, on lui redonnera la parole tout à l'heure.
Mais Adrienne a raison, l'émotion est essentielle pour créer un lien affectif avec une boisson. Et nous, notre rôle d'ambassadeur, de prescripteur, passe par l'émotion. Je me rappelle d'une très forte, c'est lorsque j'ai goûté l'eau de Fushimi à Kyoto, une eau extrêmement pure. En termes de minéraux, on était à 13 fois plus pure que l'eau d'Evian, rendez-vous compte. Et surtout un pH proche de celui du corps humain, 7. Et j'ai eu l'émotion de la pureté, l'émotion du rien, si j'ose dire. C'était tellement pur, tellement délicat, que je n'ai rien senti. Et pourtant, j'ai été ému et ça m'a transpercé tel un frisson. Donc c'est ça aussi le saké japonais. C'est cette mer nourricière qui est l'eau des montagnes japonaises qui permet de créer une boisson exceptionnelle.
Oui, c'est-à-dire qu'on dit pas que c'est fait à base de riz, de koji et d'eau. On dit que c'est fait à base de riz, de koji et d'eau de source.
De source.
L'eau pure est très très importante. Quelle a été votre émotion à vous, Adrienne Sonnier-Blage?
Mon émotion à moi, c'est peut-être, c'est un peu comme Xavier. J'ai été invitée par un spécialiste du saké après que moi-même je l'ai invité en Bourgogne pour lui faire découvrir les grands vins de Bourgogne. Et j'ai goûté ce saké de Kuheiji à l'époque, Kurodasho, et donc qui vient vraiment d'un riz qui a été fait à un endroit spécifique, avec cette eau de source magnifique. Et c'est la même chose, l'émotion qui vient de la buvabilité, c'est pas seulement de la buvabilité, c'est la
buvabilité, alors ça je connaissais pas encore.
Non, mais c'est quelque chose de très très délicat en bouche, dans le palais.
Digeste.
Digeste et la sensation de boire une très bonne eau. Ouais. Avec une émotion en plus qui est ce travail de la fermentation et de l'homme qui est venu choisir cette eau, choisir ce riz et le travailler. C'est quelque chose qui est un peu en relief, un peu en dentelle, mais dans de l'eau, dans la pureté de l'eau.
Alors c'est embêtant parce que c'est quand même un alcool, hein, donc oui. C'est toujours à consommer avec modération, on ne le dira jamais assez. Donc si vous dites déjà que ça, c'est comme de l'eau, alors déjà ça m'inspire deux choses. Un, attention parce qu'effectivement c'est de l'alcool. Deux, c'est un peu étonnant parce qu'on dirait que ça n'a pas de goût. Or, ça a du goût.
Bien sûr, il y a un tactile émotionnel en bouche parce que le saké, en analyse, fait en moyenne au Japon, attention, 23 grammes de sucre résiduel par litre. Donc, il y a du sucre résiduel en fin de fermentation. Il y a un tactile, une aromatique, mais proche de la fleur, du fruit blanc. Et puis, bien sûr, qui peut parfois évoluer sur des sakés beaucoup plus épicés, beaucoup plus denses, structurés, céréaliers. Ça, c'est tout dépend si on a des sakés de tradition, des sakés modernes. Encore une fois, la main de celui qui le fait est essentielle.
Ah oui, la main de l'homme est essentielle.
Oui, oui. Comme
dans la fabrication.
Tout à fait comme dans le vin. Adrienne vient de Beaune. D'ailleurs, moi aussi, on a ce point commun, c'est qu'on est bourguignon. Et une même parcelle en Bourgogne. Un Vaune romanais premier cru les Chaumes, peut-être fait différemment si c'est le domaine Arnaud Lachaud ou le domaine Ligier Belair. Donc effectivement, ça n'a rien à voir. Et la main de celui qui le fait, le facteur humain, pour moi, c'est plus de 50% du terroir.
Adrienne Sonnier-Blache.
Entièrement d'accord. Le terroir, c'est l'homme qui a choisi de s'installer à cet endroit-là en se disant « Ah tiens, je vais manger cette pomme, ou je vais manger ce raisin, ou je vais manger ce riz, et il est drôlement meilleur ici qu'ailleurs, donc je vais en faire quelque chose. » Le terroir, sans l'homme, c'est pas le terroir, en fait. Donc, je suis entièrement d'accord avec Xavier. Juste pour revenir sur le goût du saké, qui serait proche du goût de l'eau, ce qui est très beau dans la culture gustative japonaise, c'est que ça a le goût de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Ça a le goût du sucre, mais c'est pas du sucre. Ça a le goût du salé, mais c'est pas du salé. Il y a toujours ce rapport de quelque chose qui est entre. On n'est pas en lien direct avec la sensation. On a toujours, il y a toujours un vide, un petit vide qui permet d'avoir une sensation de relief dans les choses, mais avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de raffinement.
Alors vous parlez tous les deux beaucoup de la délicatesse et du raffinement, et pourtant quand on ne connaît pas le saké, même si on en parle maintenant en France depuis une dizaine d'années, je rappelle que votre guide Adrienne Sonnier-Blache date de 2018, et puis que les importations ont augmenté de 20% entre 2021 et 2024, et qu'il y a de plus en plus de chefs débranchés, des étoilés qui s'intéressent au saké, bon, mais c'est pas encore complètement arrivé arriver dans la bouche, en tout cas aux oreilles du grand public. Et peut-être parce que pendant longtemps, Xavier Tuisa, ça a été considéré comme un alcool bas de gamme, très fort. On a l'idée que c'est un alcool fort. Alors, est-ce que c'est parce qu'on le servait dans des petits verres coquins là, dans des restaurants chinois à la fin du repas? Et c'est pas du tout la même chose.
Pas du tout. Je pense, Caroline, qu'il s'agit du plus grand quiproquo de l'histoire. Puisqu'en effet, cet alcool servi dans les restaurants asiatiques populaires est en réalité chinois. C'est une distillation, donc un saké distillé qui vient de céréales et même parfois de riz, mais qui fait 40 degrés. Et il y a beaucoup de restaurants dits japonais tenus par des propriétaires chinois et qui à la fin servaient ça. Mais ça fait 40 degrés, c'est pas du saké japonais. Donc lui était issu de la distillation en Chine et de la fermentation au Japon. Mais comme c'est le même kanji, c'est le même symbole qui veut dire, qui traduit saké. En fait, saké, ça veut dire quoi? Ça veut dire bière, cidre, vin. Ça peut vouloir dire eau de vie, cognac, armagnac, brandy. Ça veut tout dire, ça veut dire alcool. Et donc, il y a eu un quiproquo gigantesque entre le saké chinois et le saké japonais, qui effectivement, vous l'avez dit au début, du nihonshu.
Et ça, c'est... On devrait différent. Presque dire nihonshu, mais devrait c'est effectivement dire le terme japonais.
Tout à fait.
Adrienne Saunier-Blache.
Bah, c'est ça qu'on essaye, c'est pour ça qu'on fait de l'évangélisation.
Carrément, on y revient. D'ailleurs, de toute façon, c'est la boisson des dieux, hein, le saké. Voilà.
Donc, pendant plus de 1000 ans, c'était pour eux. Ouais.
Mais saké, c'est quand même un mot japonais. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment eu un quiproquo énorme.
Alors Xavier Tuisa disait qu'il y avait du saké traditionnel et du saké moderne. Moi j'ai lu en préparant cette émission qu'effectivement on pouvait distinguer deux grandes familles de saké. Disons les plutôt fruités florales et le côté plutôt puissant épicé. C'est ça le moderne et le traditionnel, Adrienne Saunier-Blache?
Moi j'aime bien les classer plutôt en saké riz et en saké eau. Ceux qui ont, comme un producteur de vin, va plus chercher vers la minéralité ou un autre plus vers la maturité de son fruit. Je trouve que là, ça va être un peu la même chose. Le brasseur, est-ce qu'il va avoir envie de révéler la beauté de son eau qui est très particulière comme à Fushimi, avec une eau extrêmement douce, extrêmement délicate, ou est-ce qu'on va aller chercher, par exemple, près du lac Biwa, Monsieur Tomita, qui va prendre des riz plus riches, avec une légère amertume, mais qui donne justement ce côté céréalier. Et en fait, l'usage va être très différent, mais comme c'est le cas dans le vin, pour tel plat, telle occasion, à boire un chenin de la Loire, et puis pour une grande occasion, peut-être un grand cru de Bourgogne avec du chardonnay. Donc voilà, c'est cette diversité-là qui est intéressante.
Est-ce que les vignerons, est-ce que les viticulteurs peuvent avoir peur du saké? On fait pas beaucoup de riz, hein, quand même, en France encore, donc on doit l'importer, le saké, Xavier Tuisa. Oui. Mais est-ce qu'il est comparable et en quoi est-il comparable au vin?
Il est très comparable au vin dans la notion de lieu, d'identité de lieu, de terroir, de savoir-faire, mais surtout en termes de texture. Et Adrienne vient de le dire parfaitement, il y a des sakés très purs, très délicats, tels un chenin, un riesling, donc qui vont chercher les mêmes combinaisons aromatiques d'accord mésé saké, les poissons, les entrées, les coquillages, le végétal, et également des sakés beaucoup plus puissants, beaucoup plus riches, qui là, eux, vont aller jouer sur le tableau du Languedoc, de Bordeaux.
Ah oui, ça veut dire qu'il y a d'abord beaucoup de variétés et qu'on peut même parler de cru.
Ah oui, parce que le Japon est en train de créer les GI, donc c'est des indications géographiques qui mettent en avant le lieu. Donc effectivement, il y a des spécificités, des eaux un peu plus dures, je pense à Nadagogo, qui est une eau près de Kobe, un peu plus dure, un peu plus dense, et puis des eaux très fines, très pures, comme Fushimi ou encore d'autres eaux très pures.
Et puis c'est aussi en fonction de la nature ou de la variété du riz, ça n'est déjà pas un riz de table, il faut le dire, Adrienne Saunier.
Parfois, certains le font avec des riz de table, mais c'est quand même pas très courant. On appelle le Shuzo Kotekimai, c'est ce riz qui est utilisé essentiellement pour la fermentation du saké et qui a un grain plus important, parce que au cœur de ce grain de riz, il y a ce qu'on appelle le cœur blanc, le shimpaku, qui est l'amidon que va manger ce fameux Aspergillus oryzae, ce koji king, qui va
le
venir
champignon.
Le champignon, qui va venir le manger pour le transformer en alcool. D'abord en sucre, puis en alcool.
Ça reviendrait à dire, Caroline, que un grain de raisin, de meursault ou de von Romané, c'est comestible, mais c'est dommage de le manger. Vaut mieux en faire du vin, vous voyez.
C'est un peu ça.
C'est un peu la même chose.
C'est un peu ça. Quelle est la différence de prix, puisque le saké est obligé d'être importé? Est-ce que c'est quand même plus cher que le vin, Adrienne Saunier-Blage, vous qui êtes importatrice, justement, et vendeuse en France?
Alors, en réalité, c'est moins cher.
Le saké est moins cher que le vin. Ça dépend quel vin en même temps.
Voilà, est moins cher, mais les grands sakés sont plus chers. Alors, ça reste moins cher que les grands crus de Bourgogne ou de Bordeaux. Quoique, on commence à voir des choses quand même assez impressionnantes. Mais disons que le milieu de gamme va être plus cher que le vin milieu de gamme. Mais dans l'ensemble, la grande partie du saké est très bon marché.
Oui, et c'est vrai que ce qui coûte aussi, à mon avis, enfin, cher à Adrienne, c'est le transport au froid. Parce que tout est transporté du Japon en France en système réfrigéré. Le saké est très capricieux en termes de température et il aime être dans cette zone de confort à 5 degrés Celsius où il se conserve parfaitement. Et effectivement, ça impose aussi à Adrienne des frais d'importation assez énormes. Ouais.
Bon, on va essayer de comprendre un peu mieux maintenant quelle est la palette aromatique de ce ou de ces sakés. Je ne vais pas réutiliser votre terme d'évangélisation, il ne faut pas exagérer, mais que vous défendez, que vous prenez, que vous aimez.
Voilà, le verre est rempli. Ah, c'est bien, c'est bon. On sent... C'est le saké comme j'aime, parce que... On sent le goût de, pas du riz, mais de goût qui est proche, comme ça, d'ingrédients avec une légère, un léger nez de fermentation, un peu sucré sur le deuxième goût, mais pas trop, j'aime pas trop le saké trop sucré.
Les bonnes choses s'intéressent ce midi au saké, boisson ancestrale japonaise, alcoolisée, donc à consommer avec modération. On entendait là Ryoko Sekiguchi, qui est votre co-autrice, Adrienne Saunier-Blache, de votre guide du saké en France, avec une centaine de sakés d'artisans japonais que vous conseillez et que vous détaillez, dont vous expliquez d'ailleurs la palette aromatique. Ryoko Sekiguchi parlait de ce goût de fermentation, de ce goût sucré ou pas trop sucré. Ça veut dire que on a des sakés plus ou moins sucrés, plus ou moins salés, et qui sentent plus ou moins le riz ou plus ou moins la fermentation.
Oui, oui, bien sûr. On a des sakés qu'on peut appeler karakuchi, qui vont être des sakés assez secs, comme on a dans un vin.
Comme on a des vins secs.
Secs, voilà. On va avoir effectivement des différences en fonction des variétés de riz qui sont utilisées. Alors, c'est vrai que c'est une palette aromatique un petit peu différente de celle du vin, puisque on va avoir des notes, je dirais, de melon d'eau, de riz cuit, de... Alors, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de décrire pour le vin. On va parler plus facilement d'agrumes, des choses comme ça. Mais voilà, il s'agit juste de s'entraîner un petit peu, et puis on trouve les mots qu'on a envie de trouver d'ailleurs pour décrire le saké.
Est-ce que ce sont les mêmes d'ailleurs, Xavier Tuisa? Je m'adresse au sommelier que vous êtes. Est-ce que ce sont les mêmes?
La description aromatique, oui, peut avoir un champ lexical assez proche. Néanmoins, le tactile, pour moi, le
qu'est-ce que vous appelez le tactile? C'est le goût.
Tout à fait. Lorsque vous mettez en bouche, là, il y a une émotion différente. On parle de minéral, comme si on léchait le caillou. Hein, c'est presque ça aussi dans le vin. D'ailleurs, c'est comme ça dans le vin. Mais le saké le reprend parfaitement. Cette sensation parfois suave, enrobante, réconfortante. Ça, c'est quand un saké peut être parfois, ça arrive, hein, tiédi. Ou alors des sakés au caractère dense, profond, structuré, épicé, charnu. Ça, c'est effectivement les sakés de tradition, comparables à ces vins riches et puissants. Donc oui, effectivement, la description est la même, et je pense que c'est ça qui va permettre au saké de s'insérer dans la culture française par le spectre du vin, son vocabulaire, ses us et coutumes. On va pouvoir intégrer le saké dans notre culture et notre cuisine.
Est-ce qu'on le boit, Adrienne Saunier-Blache, de la même façon qu'on boit le thé, ou est-ce qu'on le boit plutôt de la même façon qu'on boit du vin? Est-ce que, pour le dire très matériellement, on le boit dans des verres en verre, ou de la porcelaine, de la céramique, à bord évasé, à bord droit? Enfin, comment faut-il boire le saké?
Il n'y a pas de façon définie. On le boit comme on a envie de le boire, avant tout. Moi, le parti pris que j'avais choisi au départ, c'est utilisons des outils qui nous sont proches en tant que Français de notre culture du vin. Donc, servons-le dans des verres à vin pour que les gens comprennent que voilà, on est à égalité. Mais en réalité, au Japon, ce qui est chouette, c'est qu'on peut le boire dans plein de contenants différents, que ce soit dans le verre, la céramique, la laque, des petits, des grands, des cristaux. Enfin, donc tout est possible et c'est une des joies d'ailleurs du savoir-boire japonais, c'est de pouvoir choisir le contenant dans lequel. Donc Xavier va préférer la laque ce jour-là et moi je préférerai la céramique. Et en réalité, on aura une petite différence de goût entre les deux verres. Et ça, c'est intéressant.
Xavier Tuzard.
Mais c'est très bon ce que dit Caroline, parce que vous avez, à mon avis, synthétisé une chose importante. On peut boire le saké à mi-chemin entre le vin et le thé. Ce sont les mêmes modes de consommation. Le verre à vin, oui, mais la céramique également, la porcelaine également. Donc oui, c'est une boisson qui se consomme comme un vin et comme un thé.
Oui, sauf qu'il est donc entre 14 et 17 degrés. C'est pas beaucoup plus fort, en fait,
non,
mais c'est quand même...
Ça fait un millésime chaud en Vallée-du-Rhône.
Ah bah justement, puisque vous parlez de chaleur, est-ce qu'on le consomme chaud ou froid?
Alors moi, j'adore les émotions que procure une seule et même bouteille. Et parfois, il y en a qui sont capables d'aller chercher le froid pour créer justement l'accord mezé-saké, c'est un défaut professionnel, sur le végétal, donc l'asperge, l'iode, les huîtres, les fruits de mer, les belles langoustes. Également, température ambiante pour aller chercher l'expression typée meursault hein, ou chasse à Montrachet avec des poissons en sauce, des turbots, des Saint-Pierre, des bars, rôtis, braisés. On peut aussi s'amuser sur quelques veaux. Et puis aussi aller chercher une température de peau, 37 degrés, qui là va révéler la suavité, l'onctuosité avec un foie gras poêlé chaud et un bouillon au réfort, par exemple. Ça peut être exceptionnel.
Adrienne Soulier-Blache, pareil, chaud, froid pour vous, à température?
Ouais. Le saké chaud, pour moi, il faut qu'il soit très bon.
Oui, c'est la seule place.
Parce que justement, on a cette qualité du riz qui s'exprime encore plus. Et j'ai un souvenir comme ça d'un repas au Japon chez un chef que j'aime beaucoup qui s'appelle Chef Namae, où ils m'ont servi un saké chaud avec une canette rôtie. Et j'ai trouvé que c'était un des accords les plus merveilleux qui puissent exister.
Alors, puisque vous parlez des accords l'un et l'autre, de fait, vous dites souvent, Xavier Tuizat, que le saké, c'est un exhausteur de saveurs qui se met au service d'un éventail d'accords infinis. Oui. Là où le vin, parfois, est arrêté. Par exemple, vous citiez l'asperge.
Oui, l'asperge, l'œuf, les soupes.
Le vin ne s'accorde pas bien avec ça, alors que le saké est beaucoup mieux.
En réalité, là où le vin échoue, le saké prend le relais. Et ça, c'est intéressant. Et comme il n'y a pas toujours d'apport aromatique ou d'apport de texture que le vin réalise souvent, lui, c'est un exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir, avec cette humilité japonaise, de se mettre au service du produit. De l'œuf, du bouillon, des ormeaux, qui sont toujours des textures assez fermes, assez caoutchouteuses. Et là, c'est plus compliqué. Mais comme il exhauste, il est incontournable.
On va passer au cas pratique, à l'exercice pratique, Xavier Tuizat, puisqu'Adrienne Saulnier-Blache a apporté une bouteille, donc une bouteille de saké qui ressemble à une bouteille de vin.
Oui.
Je vais vous demander, Adrienne Saulnier-Blache, de servir alors un verre dans un contenant qui est un contenant en céramique.
En céramique.
Vous avez donné un contenant, je vais me taire pendant que vous vous servez. Voilà.
Oh, c'est beau, c'est l'eau de la rivière.
Ça vous plaît, vous êtes un buveur hein, quand même, Xavier Tuizat. Et vous avez un contenant différent.
En lac, voilà, tout à fait, qui est très léger, qui n'a quasiment pas de poids. Le seul poids que j'ai dans les mains, c'est le poids du saké qui est servi, mais le contenant vide est d'une incroyable légèreté, c'est comme si on n'avait rien. Effectivement, c'est une sensation tactile remarquable. Et avant de le déguster, mes mains qui touchent cette laque actuellement est déjà conditionnée sur du soyeux et de l'élégance.
Bon, merci Adrienne Saulnier-Blache, ça plaît déjà beaucoup au chef sommelier Xavier Tuizat. Il paraît qu'il n'y a pas une intensité olfactive très grande et que c'est inutile de sentir le saké avant de le goûter. Vous confirmez?
Alors, oui, on a toujours un contact primitif avec le nez, l'odorat, donc bien sûr que le nez nous donnera juste une indication qu'il n'y a pas de défaut et qu'il y a une appétence à le déguster. En revanche, tout se passe en bouche.
Bon, bah, je vous laisse goûter.
Et là, vous voyez, si on commence rapidement, vous avez un nez effectivement d'une intensité très pure, très fine, très délicate. On dénote quand même ces arômes un petit peu de fleurs blanches, de poire nashi japonaise, qui est pour moi le summum de l'élégance. Et puis en bouche, on va voir. Il y a une fraîcheur, un éclat, une énergie dans ce saké qui est remarquable, puisque on commence avec une acidité. La mise en bouche est fraîche, rafraîchissante, et on évolue sur une aromatique là intéressante de peau de pêche. Vous voyez cette peau de pêche qui est là. On a effectivement tous les fruits du verger qui sont entremêlés. L'aspect floral acacia est bien présent. Quelques touches un peu jasmin qui apparaissent en milieu de bouche. Et une finale pure, rafraîchissante, désaltérante. C'est pour moi un saké de haute précision, de haute couture. Et ça fait rêver, ça me fait penser à le mettre en scène avec le printemps comme l'asperge.
On mettra peut-être la référence de cette bouteille sur le site de France Culture pour les amateurs. Mais juste en un mot, qu'est-ce que c'est, Adrien?
C'est un saké de Kyoto, donc qui s'appelle Nichi-Nichi. Nichi-Nichi, ça vient d'une expression bouddhiste qui veut dire Nichi-Nichi kore kojitsu, chaque jour est un bon jour. Et donc, monsieur Matsumoto, qui est un jeune brasseur, produit ça avec les meilleurs Yamada Nishiki de la région de Hyogo, qui est donc juste à côté de Kyoto.
Alors je ne sais pas si ce saké fait partie des 100 sakés d'artisans japonais de votre guide, qui sont classés avec un plateau de fruits de mer à l'apéro, pour un dîner, au coin du feu, plein soleil, ou en amoureux des guides saké de l'intime et de la délicatesse. Et même quand on a un chagrin d'amour, on peut boire un saké.
Surtout.
On a trouvé, Fanny Constant, qui réalise cette émission, une chanson très populaire entre les années 30 et les années 60, très grand succès, ce titre Kanashi Sake, qui est chanté par Misora Hibari, le saké de la tristesse. Un grand merci à tous les deux, Adrienne Saulnier-Blache et Xavier Tuiza, d'être venus nous parler du saké, le guide du saké en France, apprendre, déguster, acheter avec 100 sakés d'artisans japonais, c'est aux éditions Keribus. On mettra bien entendu sur notre site internet d'abord toutes les informations, les adresses où l'on peut tourner, où l'on peut trouver les références dont on a parlé. On peut trouver par exemple en France à la Maison du Saké à Paris, des sakés, bien sûr Madame Saké, vous en voyez, on mettra le site sur notre page. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France avec la petite équipe des bonnes choses à la documentation Siam Boutata, à la réalisation aujourd'hui Fanny Constant et à la prise de son Grégory Wallon. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.